Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 6. Journal de Mina Murray. 26 juillet. Je suis de plus en plus inquiète, et écrire me soulage un peu. C'est comme si l'on se parlait à soi-même et s'écoutait tout à la fois. De plus, le fait de tenir ce journal en caractère de sténographie me donne une impression différente que si j'employais l'écriture ordinaire. Je suis inquiète au sujet de Lucie comme au sujet de Jonathan. Il y a quelque temps que j'étais sans nouvelles de lui. Mais hier, le cher Monsieur Hawkins, qui est toujours si aimable, m'a envoyé une lettre qu'il avait reçue de lui. Quelques lignes seulement, envoyées du château Dracula, annonçant son départ. Cela ressemble si peu à Jonathan. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je voudrais tant être rassurée. Quant à Lucie, bien qu'elle paraisse en bonne santé, elle est de nouveau depuis peu en proie à des crises de somnambulisme. Sa mère m'en a parlé et nous avons décidé que dorénavant, la nuit, je fermerai à clé la porte de notre chambre. Madame Westenras s'est mise en tête que les somnambules, immanquablement, grimpent sur les toits des maisons et vont se promener au bord des falaises les plus escarpées pour s'éveiller soudain et tomber en poussant un tel cri de désespoir qu'on l'entend dans toute la région. La pauvre, elle passe sa vie à trembler en pensant que cela pourrait arriver à Lucie, et elle m'a raconté que son mari, le père de Lucie, souffrait de crises semblables. Il se levait au milieu de la nuit, s'habillait et sortait si on ne l'arrêtait pas. Lucie doit se marier cet automne. Elle s'occupe déjà de sa robe de noces, de son trousseau, de l'arrangement de sa maison. Je la comprends, car je ferai exactement la même chose, à cette différence près que nous débuterons dans la vie d'une façon beaucoup plus simple, car nous devrons avant tout nous soucier de joindre les deux bouts. Monsieur Holmwood, l'honorable Arthur Holmwood, fils unique de Lord Godalming, doit arriver bientôt, aussitôt qu'il pourra quitter la ville, car son père est malade. Lucie compte les jours, les heures. Elle veut, dit-elle, aller s'asseoir avec lui sur le banc du cimetière, et lui montrer du haut de la falaise le beau paysage de Whitby. À mon avis, c'est la tante qui nuit à sa santé. Elle ira tout à fait bien dès que son fiancé sera ici. 27 juillet. Rien encore de Jonathan. Pourquoi ne m'écrit-il pas, ne serait-ce qu'un mot seulement? Lucie se lève de plus en plus souvent la nuit, et chaque fois je m'éveille quand je l'entends marcher dans la chambre. Heureusement, il fait si chaud qu'il lui serait impossible de prendre froid. Mais en ce qui me concerne, l'inquiétude continuelle et le fait de passer des nuits à peu près blanches commencent à me rendre très nerveuse à mon tour. À part cela, Dieu merci, Lucie va bien. Monsieur Holmwood a soudain été appelé à Ring, l'état de son père s'étant aggravé. Naturellement, Lucie est désolée de ne pas le voir aussitôt qu'elle le pensait. Elle a même parfois des accès de mauvaise humeur, mais sa santé ne s'en ressent pas. Elle est un peu plus forte et ses joues sont roses. Pourvu que cela dure. 3 août. Une autre semaine passée encore et pas de lettre de Jonathan. Cette fois, il n'a même pas écrit à M. Hawkins, m'apprend ce dernier. Oh, j'espère qu'il n'est pas malade. Dans ce cas, il aurait sûrement écrit. Je reprends sa dernière lettre et il me vient un doute. Je ne le reconnais pas dans ce qu'il dit, et pourtant c'est son écriture, il n'y a pas à s'y tromper. Lucie n'a plus autant de crises de somnambulisme cette semaine. Mais il y a maintenant autre chose d'étrange en elle qui m'inquiète un peu. Même dans son sommeil, j'ai l'impression qu'elle m'observe. Elle essaie d'ouvrir la porte, et quand elle s'aperçoit qu'elle est fermée à clé, elle se met à chercher la clé partout dans la chambre. 6 août. 3 autres jours et toujours pas de nouvelles. Attendre ainsi devient vraiment angoissant, terrible. Si j'avais seulement à qui écrire ou à qui aller trouver, cela me tranquilliserait. Mais parmi les amis de Jonathan, aucun n'a reçu de mots de lui depuis cette dernière lettre. Je ne puis que prier Dieu qu'il me donne de la patience. Lucie est plus irritable que jamais. Pourtant, elle va bien. La nuit a été orageuse et les pêcheurs disent qu'ils s'attendent à une tempête. Il faut que j'observe, que j'apprenne à reconnaître les signes qui présagent le temps. Aujourd'hui, il fait gris et au moment où j'écris, le soleil est caché par de gros nuages amassés au-dessus du promontoire. Tout est gris, absolument tout, sauf l'herbe qui est d'un vert émeraude. Gris sont les rochers et gris les nuages, dont le soleil éclaire faiblement les bords et qui s'étendent lugubrement au-dessus de la mer grise, dans laquelle les bancs de sable, qui émergent çà et là, ressemblent à de longs doigts gris. Les lames se jettent sur le rivage dans un grand fracas, assourdis pourtant par les paquets de brouillard qui sont chassés en même temps vers la terre. Et ce brouillard, gris, comme toute chose, voile l'horizon. Tout donne une impression d'immensité. Les nuages sont amoncelés les uns sur les autres comme d'énormes rochers, et une rumeur monte sourdement de cette nappe infinie qu'est la mer, comme quelque sombre présage. Çà et là, sur la plage, on distingue des silhouettes enveloppées de brouillard, et l'on croirait voir marcher des hommes ressemblant à des arbres. Les bateaux de pêche se hâtent de rentrer au port, portés par les vagues tumultueuses. Mais voici le vieux monsieur Swells, et je comprends, à la manière dont il soulève sa casquette, qu'il désire me parler. Le pauvre homme a bien changé depuis quelques jours, j'en ai été frappée. À peine assis à côté de moi, il m'a dit très doucement « Je voudrais vous demander quelque chose, mademoiselle. » Comme je le voyais assez embarrassé, je pris sa vieille main, toute ridée dans la mienne, et je le priai de parler franchement. Sans retirer sa main, il m'expliqua. « J'espère, mon enfant, que je vous ai pas choqué en vous disant toutes ces choses sur les morts. Vraiment, je suis allé plus loin que mes pensées, et je voudrais que vous en souveniez quand je ne serai plus là. Nous, les vieux, nous radotons. Nous avons déjà un pied dans la tombe, et nous n'aimons pas trop de penser à la mort, et nous voulons pas en avoir peur. Aussi, pour ma part, ai-je pris le parti d'en parler légèrement, afin de me rassurer moi-même. Pourtant, mademoiselle, Dieu le sait, je n'ai pas peur de mourir. Pas peur du tout. Seulement, si ça ne tient qu'à moi, je voudrais vivre encore un peu. Mais mon temps doit être proche, car arrivé à l'âge de 100 ans, c'est tout ce qu'un homme peut espérer. Et j'en suis si près que la vieille bonne femme est déjà occupée à aiguiser sa faux. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de blasphémer. Oui, bientôt, l'ange de la mort sonnera de sa trompette pour m'appeler. Mais il ne faut pas avoir de chagrin, mon enfant, fit-il en voyant que je pleurais. Si même il vient cette nuit, je répondrai volontiers à son appel. Car après tout, vivre, c'est attendre quelque chose d'autre que ce que nous avons, quelque chose d'autre que ce que nous sommes en train de faire. La mort est la seule chose sur laquelle nous puissions compter. Oui, ma petite, elle peut venir et venir vite, au fond, je serai content. Peut-être ce vent du large l'amène-t-il déjà avec tous les naufrages et toutes les détresses. Attention, attention, cria-t-il soudain. Il y a dans ce vent et dans ce brouillard quelque chose qui ressemble à la mort, qui sent la mort. Elle est dans l'air, elle arrive, je le sais. Seigneur, faites que je réponde sans regret à l'appel. Avec dévotion, il leva les bras au ciel, puis se découvrit. Ses lèvres remuaient comme s'il priait. Après quelques moments de silence, il se leva, me serra les mains, puis, après m'avoir béni, me dit au revoir et s'en alla de son pas pénible. Je restai assez bouleversé quelques moments. Aussi fus-je bien aise de voir arriver le garde-côte, portant sa longue vue sous le bras. Selon son habitude, il s'arrêta pour me dire quelques mots, sans cesser toutefois de regarder au large, un bateau qui paraissait en difficulté. « Un bateau étranger, assurément, » fit-il. « Russe, on dirait. Mais il a une façon assez bizarre de se diriger, pas vrai ? Comme s'il ne savait pas ce qu'il veut, comme s'il sentait venir la tempête, sans pouvoir se décider ou à mettre le cap au nord ou à entrer ici dans le port. Regardez-le donc. On dirait vraiment que personne ne tient le gouvernail en main. Il change de direction à chaque coup de vent. Croyez-moi, demain, à cette heure-ci, nous aurons entendu parler de lui. » Chapitre 7. Coupure du Daily Graph collée dans le journal de Mina Murray, d'un de nos correspondants. Whitby, 8 août. Une des tempêtes les plus formidables et les plus soudaines que l'on ait jamais vues vient d'avoir des conséquences également extraordinaires. Le temps était assez lourd, sans que ce fût exceptionnel pour un mois d'août. La soirée de samedi fut très belle, et hier, un grand nombre de villégiateurs se rendirent un peu partout, soit dans les bois de Mulgrave, soit dans la baie de Robin Hood, soit au Rig Mill, à Runswick, ou sur les quais du port. Les deux vapeurs, l'Emma et le Scarborough, se promenèrent comme d'habitude le long de la côte. Bref, il y eut beaucoup d'animation à Whitby et dans les environs. Le temps resta splendide jusqu'à la fin de l'après-midi, mais alors quelques vieux habitants de l'endroit, qui montent plusieurs fois par jour jusqu'au cimetière, ce cimetière qui se trouve sur la falaise est, et qui, de là, surveille la mer, attirèrent l'attention sur des nuages en queue de chat se formant vers le nord-ouest. Le vent soufflait à ce moment-là du sud-ouest, ce qui, en langage barométrique, donne, numéro 2, légère brise. Le garde-côte fit tout de suite son rapport, et un vieux pêcheur, qui depuis plus de 50 ans surveille les signes qui présagent le temps, annonça qu'une brusque tempête allait se lever. Mais le coucher de ce soleil fut magnifique, illuminant les énormes nuages et offrant un spectacle admirable à tous ceux qui se promenaient sur la falaise du vieux cimetière. Le soleil disparaissait peu à peu derrière le promontoire dont la sombre masse se détachait sur le ciel, son très lent déclin étant accompagné d'un scintillement multicolore, transparent à travers les nuages, pourpre, rose, violet, vert et toutes les nuances de l'or, avec ici et là des ombres de formes différentes dont les contours faisaient songer à de gigantesques silhouettes. Rien de tout cela ne dut échapper au peintre qui se trouvait parmi la foule, et assurément, des esquisses et des toiles intitulées, par exemple, « Prélude à la grande tempête » orneront les Simèzes en mai prochain. Plus d'un patron décida alors que son bateau ne sortirait pas du port avant que la tempête menaçante en fût passée. Le vent tomba entièrement pendant la soirée, et vers minuit régnait ce calme, cette chaleur étouffante qui précède l'orage et rend nerveuses les personnes très sensibles. On voyait peu de lumière sur la mer, car même les vapeurs dont le service consiste à longer les côtes restaient au large. Quant aux bateaux de pêche, ils étaient fort rares. Le seul bateau que l'on distinguait assez nettement était une goélette étrangère qui, toute voile déployée, semblait se diriger vers l'ouest. Tout le temps qu'elle resta en vue, les imprudences, les maladresses, l'ignorance évidente de ces officiers furent abondamment commentées par la foule, et du port, on essaya de leur faire comprendre qu'un danger les menaçait, et qu'ils devaient amener les voiles. Avant que la nuit fût complètement tombée, on la vit encore voguer paisiblement, aussi paisible qu'une embarcation peinte sur un océan peint. Peu avant 10 heures, ce temps lourd devint réellement oppressant, et le silence si profond que l'on entendait très distinctement, dans le lointain, bêler un mouton ou aboyer un chien. L'orchestre du port, qui jouait si joyeusement ses airs français, semblait seul troubler ce grand calme étendu sur toute la nature. Mais les 12 coups de minuit avaient sonné depuis quelques instants à peine qu'un bruit singulier se fit entendre, comme venant du large et se rapprochant de plus en plus, en même temps qu'un roulement encore sourd grondait au-dessus des nuages. Alors, d'un coup, la tempête se déchaîna, avec une rapidité qui, à ce moment-là, sembla incroyable, et que maintenant encore, il est impossible de comprendre. La nature entière changea d'aspect en l'espace de quelques minutes. La mer si calme se transforma en un monstre rugissant, les vagues tumultueuses chevauchant l'une sur l'autre. Des lames frangées d'une écume abondante venaient se jeter follement sur le rivage ou monter à l'assaut des falaises. D'autres se brisaient contre les quais et leur écume voilait la lumière des deux phares qui se dressent au bout de chacun de ces quais. Le vent faisait un bruit semblable à celui du tonnerre et soufflait avec une violence telle que les hommes les plus robustes se tenaient difficilement debout. On jugea bientôt nécessaire de disperser la foule qui, jusque-là, s'était obstinée à rester sur les quais, car le danger s'aggravait de minute en minute. Comme pour rendre la chose plus sinistre encore, des paquets d'écume étaient projetés vers l'intérieur des terres, et ces nuages blancs, chargés d'humidité, qui arrivaient, semblables à des fantômes glacés, vous enveloppaient de façon si désagréable que seul un petit effort d'imagination eût suffi pour vous faire croire que revenaient les marins péris en mer, qu'ils touchaient de leurs mains de mort leurs frères vivants. Et plus d'un parmi ceux-ci on frémit quand les volutes de brouillard les enveloppaient. Parfois, le brouillard se dissipait et l'on pouvait voir la mer à la faveur d'un éclair qui, aussitôt, était suivi par un coup de tonnerre tel que l'immensité du ciel semblait trembler sous le choc. Le paysage découvert ainsi, à la faveur des éclairs successifs, offrait des aspects d'une grandeur impressionnante. La mer, s'élevant en de hautes montagnes avec chaque vague, jetait vers le ciel des gerbes gigantesques d'écume blanche que le vent de la tempête semblait arracher pour les lancer dans l'espace. Ça et là, un bateau de pêche, une barque de pêche, n'ayant plus qu'un lambeau de voile, ne savait ni comment ni vers où se diriger pour se mettre à l'abri. De temps à autre apparaissaient, sur la crête d'une vague, les ailes blanches d'un oiseau de mer ballotté par la tempête. Dressé au sommet de la falaise de l'Est, le nouveau projecteur attendait d'être utilisé pour la première fois. Les hommes chargés de s'en occuper le mirent en action et lorsque les murailles de brouillard se faisaient moins épaisses, il balayait de ses feux la surface de la mer. À une ou deux reprises, il rendit de réels services. Par exemple, un bateau de pêche, le plat-bord sous l'eau, guidé par ses lumières, parvint à regagner le port sans aller se jeter contre les quais. Et chaque fois qu'un bateau ou une barque réussissait ainsi à rentrer au port, la foule poussait un cri de joie. À l'instant, ce cri dominait la bourrasque, mais aussitôt, il était étouffé par le bruit. Peu de temps se passa avant que les projecteurs ne découvrent, à quelque distance vers le large, une goélette toute voile déployée, la même, probablement, que l'on avait remarquée plus tôt dans la soirée. Le vent, à ce moment-là, avait tourné à l'est, et les gens de mer qui se trouvaient sur la falaise frémirent en comprenant le terrible danger que le bateau courait. Entre la goélette et le port s'étendait un long banc de rochers sur lequel tant de bateaux déjà s'étaient brisés. Et comme le vent soufflait maintenant de l'est, il paraissait réellement impossible qu'elle parvînt à entrer dans le port. C'était l'heure de la marée haute, mais les vagues sauvages montaient à une telle hauteur que lorsqu'elles se creusaient, on voyait presque le fond. Cependant, la goélette avançait, toute voile dehors, et si rapidement que, comme le dit un vieux loup de mer, elle devait arriver quelque part, fût-ce en enfer. Poussées vers le rivage, s'élevèrent de nouvelles murailles de brouillard, plus épaisses que les précédentes, et qui semblaient vous séparer du monde entier et vous laisser seulement le sens de l'ouïe. En effet, le mugissement de la tempête, les coups de tonnerre et le fracas de vagues traversaient l'écran formidable et tout imprégné d'eau pour venir jusqu'à vous et vous assourdir. Les rayons du projecteur restaient fixés sur l'entrée du port, exactement sur le môle est, où l'on croyait que se produirait le choc, et chacun retenait son souffle. Soudain, le vent tourna au nord-est et dissipa le brouillard. Alors, chose presque incroyable, la goélette étrangère passa entre les deux môles en sautant de vague en vague dans sa course rapide et vint se mettre à l'abri dans le port. Les rayons du projecteur ne la quittaient pas, et quelle ne fut pas l'horreur ressentie par la foule quand elle aperçut, attachée au gouvernail, un cadavre dont la tête pendait et qui vacillait d'un côté puis de l'autre selon les mouvements du bateau. On ne voyait sur le pont aucune autre forme humaine. Un grand cri de terreur stupéfaite s'éleva quand les gens comprirent que la goélette était entrée dans le port comme par miracle. La main d'un mort tenait le gouvernail. Cependant, tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. La goélette ne s'arrêta pas, mais continua sa course plus avant dans le port pour aller s'échouer sur un tas de sable et de gravier accumulés par les marées montantes et les tempêtes dans le coin sud-est, près de la jetée qui se terminait sous la falaise est, jetée que l'on appelle dans le pays la Tate Hill Pier. Il y eut évidemment un choc considérable quand le bateau s'échoua sur le tas de sable. Les mâts, les cordages cédèrent et, chose inattendue, à l'instant même où la proue touchait le sable, un énorme chien surgit de la cale, sauta sur le pont, comme propulsé par le choc, puis du pont se précipita sur le rivage. Se dirigeant à toute vitesse vers le haut de la falaise où se trouve le cimetière, falaise si escarpée que certaines pierres tombales restent en partie suspendues dans le vide, là où la roche s'est peu à peu effritée, il disparut dans la nuit qui paraissait plus noire encore au-delà des rayons du projecteur. Le hasard voulut qu'il n'y eut personne à ce moment-là sur la Tate Hill Pier. Tous les habitants des maisons environnantes s'étant ou bien couchés ou bien rendus sur les hauteurs dominant le port. Aussi le garde-côte qui était de service accourut-il immédiatement sur la jetée et il fut le premier à monter à bord. Les hommes qui maniaient le projecteur, ayant un moment éclairé l'entrée du port sans rien apercevoir d'insolite, dirigèrent alors les rayons sur l'épave et les y braquèrent définitivement. On vit le garde-côte courir à l'arrière, se pencher sur le gouvernail pour l'examiner, mais reculer tout aussitôt, comme en proie à un émoi insurmontable. Cela excita la curiosité générale, et nombreux furent ceux qui, dans la foule, voulant approcher davantage le bateau naufragé, se mirent à courir dans cette direction. Votre serviteur fut un des premiers qui, descendant de la falaise, arriva sur la jetée. Cependant, d'autres déjà m'y avaient précédé, et le garde-côte, de même que la police, avait fort à faire pour les empêcher de monter à bord. Comme correspondant du Télégraphe, on me permit toutefois d'avancer jusque sur le pont, et je partageais avec quelques rares personnes le lugubre privilège de voir de tout près le cadavre attaché à la roue du gouvernail. Le mouvement de surprise puis de terreur qui avait saisi le garde-côte était très compréhensible. L'homme était maintenu à un rayon de la roue par les mains, liées l'une ou l'autre. Entre la paume de sa main et le bois, on avait glissé un crucifix. Le chapelet, auquel il appartenait, entourait à la fois les deux mains et le rayon du gouvernail, le tout consolidé par des cordages. Le pauvre homme avait dû être assis à un moment, mais les voiles, malmenées par la tempête, avaient fait bouger le gouvernail, le projetant ainsi d'un côté puis de l'autre, de sorte que les cordes qui le liaient avaient blessé la chair jusqu'à l'os. On fit un rapport détaillé de l'événement, et un médecin, le docteur J. M. Caffin, qui arriva immédiatement après moi, déclara après examen que la mort datait de 2 jours déjà. Dans une des poches, on trouva une bouteille soigneusement bouchée et ne contenant qu'un petit rouleau de feuilles de papier sur lesquelles, devait-on apprendre bientôt, était consigné un complément au journal de bord. Selon le garde-côte, l'homme avait dû se lier lui-même les mains, serrant les nœuds à l'aide de ses dents. Le fait que le garde avait été le premier à monter à bord aurait pu entraîner certaines complications devant le tribunal maritime, car il est interdit aux garde-côtes de porter secours à un navire en détresse, alors que c'est le droit du premier citoyen venu. Déjà, pourtant, on entend un peu partout les avis de personnes compétentes en la matière, et un jeune étudiant en droit affirme que le propriétaire du bateau n'a plus aucun droit à revendiquer, son bateau étant en contravention avec les règlements de main morte, puisque la barre, en tant qu'emblème, sinon en tant que preuve de bien transmis, était tenue par la main d'un mort. Il est inutile d'ajouter qu'on a retiré le malheureux de son poste, où il était si courageusement demeuré jusqu'à la fin, et qu'on l'a porté à la morgue en attendant l'enquête. Et maintenant, la tempête s'apaise. Les gens s'en retournent chez eux, le lever du soleil illumine le ciel au-dessus des vallons du Yorkshire. Je vous enverrai à temps pour la prochaine édition du journal d'autres détails au sujet de cette goélette en détresse, qui, malgré la tempête, est arrivée si miraculeusement au port.